Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. » On poursuit aujourd'hui la série que nous avions choisie de commencer sur l'appel de Dieu à sa gloire. Et maintenant que on regarde en arrière et que on contemple tout ce qu'on a considéré dans le passé, on se souvient que on a appris que nous vivons actuellement au jour antitypique des expiations, le jour du jugement, et que nous sommes appelés à nous examiner de très près pour que nos péchés que nous trouvons et réalisons à travers cet examen puissent être ôtés de nous et qu'ils puissent être effacés des livres du ciel. Parce que cette activité du jugement dans laquelle nous vivons depuis 1844, que nous connaissons bien en tant qu'adventistes du septième jour, il ne s'agit pas simplement de demander à Dieu qu'il veuille bien effacer nos péchés des livres du ciel pour que nous puissions être reçus dans le royaume céleste lorsque Jésus revient, mais il s'agit d'une coopération dans cette œuvre où Dieu nous révèle nos péchés pour que, en les réalisant, nous puissions coopérer avec lui dans l'effacement de ces péchés. Donc cette activité de l'effacement des péchés de dessus les livres du ciel, c'est en réalité une activité pour nous, personnelle, de renoncement et d'effort permanent pour avoir le dessus sur les choses à travers lesquelles Satan s'efforce d'opérer à travers notre chair de péché. Donc nous avons vu à travers toutes les facettes que nous avons examinées que c'est vraiment ça, comme nous avions vu à travers toutes les déclarations de l'esprit de prophétie que j'ai partagées, c'est vraiment cela dont il s'agit dans le jour du jugement, l'heure du jugement de Dieu dans laquelle nous vivons, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 14. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intime et personnel que ce que nous avons l'habitude malheureusement d'entendre dans les cercles adventistes d'aujourd'hui. Donc ce que nous voulons faire, c'est maintenant davantage considérer là où nous en sommes arrivés jusque-là, c'est-à-dire que nous avons également réalisé que Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, celui vers lequel nos regards affectueux sont dirigés, il n'est pas simplement le roi de gloire, un roi glorieux que nous nous attendons à adorer dans le ciel, et qu'il n'est pas simplement le roi des rois, celui qui est au-dessus de tous les potentats de la terre, mais qu'il est le roi de la vérité. C'est ce que nous avions vu à travers notre étude minutieuse des différents aspects de ce roi qui nous est annoncé à travers la prophétie de la Bible, les prophéties de la Bible. Et nous avons vu, nous avons réalisé qu'il est le roi de la vérité, comme ce qu'il disait à Pilate, à travers les déclarations, les propos qu'il a tenus devant Pilate, qui lui posait ces questions très sérieuse et dont les conséquences étaient très importantes, à la fois pour la vie de Pilate et pour la vie de chaque personne à laquelle ces propos que Jésus a tenus sont aussi adressés. Et on a réalisé qu'il est impératif pour nous de prêter sérieusement attention à la vérité à laquelle Jésus rend témoignage. Et nous lisons que Jésus est la parole incarnée dans Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Il est, Jésus, la parole même, la parole vivante de Dieu. Il est le Logos. Et ce Logos s'est incarné dans la chair pour manifester quel était et quel est le caractère de Dieu, la disposition de Dieu envers le pécheur déchu et vil. Et donc nous avons réalisé que celui qui n'est pas simplement roi de gloire, mais roi de vérité, nous appelle à non pas simplement professer notre allégeance à lui, mais à écouter attentivement la vérité à laquelle il rend témoignage à travers sa parole et à nous conformer à cette vérité à laquelle il rend témoignage dans sa parole. Et nous avons vu qu'il s'agit d'une activité personnelle, intime, très sérieuse et très vigoureuse de notre part. C'est l'appel que Dieu nous fait à sa gloire de très sérieusement et très attentivement considérer les choses que Dieu nous déclare à travers à la fois la Bible et l'esprit de prophétie qui est le témoignage de Jésus. Et maintenant, nous étant souvenus de ces choses que nous avions considérées précédemment, cela nous amène maintenant à une déclaration de l'esprit de prophétie que l'on trouve dans le livre Puissance de la grâce, à la page 58, au paragraphe 4. Et ici, cela fait le lien entre ce par quoi nous avions conclu la dernière fois, c'est-à-dire que Jésus est ce roi qui était venu aux Juifs, qu'ils n'ont pas reconnu, et qui est reparti et qui maintenant nous dit qu'il veut nous préparer pour son retour imminent. Jésus est ce roi, et dans ce passage de l'esprit de prophétie, nous voyons le lien entre ce que nous avions vu et ce vers quoi notre attention va être dirigée aujourd'hui dans ce message. Je lis le suivant. Nous sommes la propriété du Seigneur, à la fois par la création et par la rédemption. Nous sommes complètement ses sujets et donc responsables devant les lois de son royaume. Donc on lui appartient à la fois par la création et par la rédemption, et on est complètement les siens, ses sujets de son royaume, devant lequel nous sommes responsables. Nous sommes responsables devant les lois du royaume dont il est roi. De ce royaume céleste qui est aujourd'hui établi sur la terre simplement dans la dimension de la grâce de Dieu. Parce que s'il était établi selon la gloire de Dieu, on ne vivrait plus dans le monde dans lequel nous vivons tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le royaume de la grâce de Dieu qui a été établi, qui était établi lorsque Jésus est venu. Il a dit, le royaume de Dieu vient. Et donc tout le monde s'attendait à ce que le royaume de gloire éclate et qu'il soumette les Romains à son autorité, mais ce n'était pas ce royaume dont il était question, il parlait du royaume de sa grâce. La grâce, elle était active depuis la chute d'Adam et Ève, mais quand Jésus est venu, il y allait avoir une autre dimension de son activité sur les cœurs, à travers la révélation brillante de l'Évangile, qui avant n'était révélé aux Juifs et au monde qu'à travers des symboles et des types. Donc nous sommes bien complètement ses sujets et donc responsables devant les lois de son royaume. Je continue. Que nul ne nourrisse l'illusion que le Dieu des cieux et de la terre ne possède pas de loi pour régir et pour contrôler ses sujets. Parce que il y a des personnes dans les cercles chrétiens, dans les nombreuses confessions chrétiennes aujourd'hui, qui se réclament du nom de Jésus, se disent appartenir au royaume de Jésus, d'être sous la grâce de Dieu, mais qui vivent sans une loi de la part de Dieu. Comme si Dieu les accepterait et les sauverait, quand bien même ils mènent toujours une vie de péché. Et donc c'est pour ça qu'il est écrit que nul ne nourrisse l'illusion que Dieu n'a pas de loi pour régir et pour contrôler ses sujets. Donc nous savons ça en tant qu'adventistes du septième jour, nous disons le quatrième commandement est toujours applicable, il n'a pas été annulé, il n'a pas été transformé, changé. Nous disons que oui, l'Église catholique romaine a bien fait ce changement dont elle est seule responsable, un changement que Dieu n'approuve en aucun cas. Mais cela va plus loin que ça. Parce qu'il est écrit, nous sommes dépendants de Dieu pour tout ce dont nous jouissons. Donc cela revient maintenant à la question que Dieu, Jésus, est roi. Nous sommes dépendants de Dieu pour tout ce dont nous jouissons. Les aliments que nous absorbons, les vêtements que nous portons, l'atmosphère que nous respirons et la vie dont nous bénéficions de jour en jour nous viennent tous de Dieu. Et maintenant, c'est là qu'il y a la déclaration sur laquelle nous allons nous concentrer et qui va propulser notre méditation aujourd'hui. Je lis. Nous sommes dans l'obligation d'être gouvernés par sa volonté et de le reconnaître comme notre maître suprême. C'est là qu'il y a une autre porte, une autre réalité qui s'ouvre à nous. Et c'est le fait que Dieu a une loi pour gouverner et contrôler ses sujets à travers laquelle il exerce son autorité sur eux. Et nous, nous disons à Jésus, tu es mon roi. Je te choisis comme roi, je t'admets comme mon roi. Et donc l'esprit de prophétie s'approche de nous et nous dit ce que cela implique pour nous de faire une telle confession et de manifester une telle profession en Jésus. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous sommes dans l'obligation. Parce que pourquoi ? Parce que nous lui appartenons, nous sommes sa propriété à la fois par la création et par la rédemption. De manière double, nous lui appartenons. Et donc la parole nous dit que nous sommes dans l'obligation d'être gouvernés par sa volonté et de le reconnaître comme notre maître suprême. Et donc, la réponse naturelle du cœur humain, c'est « Pourquoi ? Mais comment ça ? Je suis obligé, il faut que je fasse ça, et je suis pas libre. » Et c'est là que nous voulons tendre très attentivement l'oreille à ce que Dieu dit dans sa parole pour que nous ne recevions pas une information en lisant sa parole qui n'est pas celle que Dieu veut nous communiquer. Il faut à chaque fois que l'on prenne en compte toutes les choses que Dieu déclare de lui-même, que l'on ne diminue pas un seul iota de ce qu'il dit, mais que nous n'ajoutions pas non plus à ce qu'il dit en interprétant les paroles de Dieu depuis notre propre perspective. Donc on ne veut pas tout de suite s'émousser et se révolter à l'idée que nous sommes dans l'obligation. Il faut considérer, parce que il est écrit dans la parole, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, avec un tel don, à la fois le don de la vie par la création et ce don de Dieu en Jésus-Christ pour notre rédemption, on peut comprendre que Dieu nous dit que nous sommes tenus véritablement, comme c'est écrit, l'amour de Christ nous presse. Et donc ici, il est écrit que nous sommes dans l'obligation d'être gouvernés par sa volonté et de le reconnaître comme notre maître suprême. Ça veut dire que Dieu ne nous dit pas « tu n'as aucun choix », mais il nous dit « si tu te réclames de mon nom et que tu veux me suivre, alors tu es dans l'obligation d'être gouverné par toute ma volonté et de me reconnaître comme maître suprême. » C'est ça le sens de ces paroles. Parce que Dieu ne force personne. Et comme nous avions vu, seul l'amour peut éveiller l'amour. Donc, il sait très bien que pour que nous lui obéissions, il a besoin que nous ayons l'amour qui est éveillé en nos cœurs. Mais quand l'amour vient remuer, vivifier et attiser une flamme brûlante en nos cœurs, que nous maintenant professons le nom de Jésus, il nous dit « tu es dans l'obligation d'être gouverné par ma volonté ». Donc tu ne te gouvernes pas toi-même. Et de me reconnaître comme un maître suprême. C'est-à-dire que si tu es chrétien, alors tu es tenu de me reconnaître comme ton maître en toutes choses. Donc, il est notre roi, nous sommes sa propriété à la fois par la création et la rédemption, mais il faut maintenant qu'il devienne notre roi par un choix délibéré d'être gouverné par sa volonté en toutes choses et de le reconnaître de manière vivante et pratique comme notre maître suprême. Donc, ces choses-là, c'est comme nous allons le voir, quelque chose qui vient nous saisir par la gorge. Non pas parce que Dieu est un tyran et que Dieu est un dictateur et que Dieu est cruel, mais parce que lorsque Dieu exprime les exigences de sa loi, il y a quelque chose en vous et moi qui n'est pas content. Donc le mal ne vient pas de Dieu, mais il y a en notre nature une chose qui se révèle à travers l'expression des exigences de la loi de Dieu. Et nous allons y revenir. Mais je lis avant cela le paragraphe 5 de cette même page, dans Puissance de la grâce, page 58, paragraphe 5. Et cela fait directement allusion à ce que nous étions en train de considérer. Je lis. « Nous avons envers Dieu une dette de reconnaissance pour la révélation de son amour en Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation d'être gouvernés par sa volonté, parce qu'on a une dette de reconnaissance pour la révélation qu'il nous fait de son amour en Jésus-Christ. Aussi, en qualité d'être humain doué d'intelligence, nous devons révéler au monde le genre de caractère qui résultera d'une obéissance à chacune des particularités de la loi du gouvernement de Dieu. Une obéissance à chacune des particularités de la loi du gouvernement de Dieu. On va y revenir. Dans une parfaite obéissance à sa sainte volonté, nous sommes appelés à manifester de l'adoration, de l'amour, de la joie et des louanges, et ainsi à honorer et à glorifier Dieu. C'est seulement de cette manière que l'homme peut révéler au monde le caractère de Dieu en Christ et démontrer aux hommes que le bonheur, la paix, l'assurance et la grâce découlent d'une obéissance à la loi de Dieu. Donc l'appel est élevé, frères et sœurs. Vous voyez, j'ai lu ces choses dans un but bien précis. Parce que l'esprit de prophétie nous dit que celui qui présente la parole doit présenter la loi et l'évangile. Le problème aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons, à travers tous les cercles chrétiens, toutes les confessions chrétiennes qui existent à travers le monde, c'est que nous voyons soit une prédication d'un côté, soit une prédication de l'autre. C'est-à-dire que soit, dans la plupart des cas, nous allons entendre une présentation de l'évangile, mais qui est divorcée de la loi, ou dans des cercles plus légalistes, nous allons entendre une présentation de la loi, mais qui est divorcée de l'évangile. Mais l'Esprit de Dieu nous dit que nous devons présenter la loi et l'évangile. Et ici, dans ces déclarations que nous venons de lire, nous avons lu l'amour, mais il s'agit ici d'une expression vive et tranchante des exigences de la loi de Dieu. Dieu nous dit, tu dois être gouverné par ma volonté. Et cela crée en nous, dans la chair de l'homme de péché, un sentiment de répulsion. C'est la réalité, frères et sœurs. Il faut accepter que quand bien même un homme a reçu l'Esprit de Dieu, il n'est pas immunisé aux impulsions de la chair de péché. Je répète, le chrétien n'est pas immunisé aux impulsions de la chair de péché simplement parce qu'il a fait l'expérience dans sa vie de la réception de l'Esprit de Dieu. Et vous comprenez, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans la majorité des cercles chrétiens, on ne présente pas la loi de Dieu parce que l'idée, c'est, et l'on estime, que, étant sous la grâce, nous ne sommes plus dans la possibilité d'être perdus. Ils disent, nous sommes sauvés, tout est bien, tout va bien, et je n'attends plus qu'être recevoir dans le royaume de mon Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce là bien une attitude correcte à adopter à la lumière de la parole de Dieu et des choses que nous lisons? Donc, si vous voyez ici, si vous considérez, nous avons une dette de reconnaissance pour la révélation de Dieu, de son amour en Jésus-Christ. Et il nous appelle en tant qu'êtres humains qui ont de l'intelligence, qui pouvons discerner cet amour, la révélation de cet amour, les traits affectueux de Dieu en Jésus pour nous, ayant cette capacité à discerner, à apprécier ces choses, il nous appelle à révéler au monde le genre de caractère. Quel caractère ? Le genre de caractère qui résultera d'une obéissance à chacune des particularités de la loi de Dieu. Ouf ! Frères et sœurs, c'est ce genre de choses qu'il nous faut considérer et attentivement écouter pour voir où est-ce que nous ne faisons pas ce qui est écrit ici. Donc il nous donne de l'intelligence. Dieu nous a accordé une intelligence et à travers cette intelligence par laquelle nous discernons l'amour de Dieu, il nous appelle à révéler au monde. Nous voulons évangéliser. Nous voulons gagner des âmes à Christ. Quelle est l'œuvre? Quel est le travail? Quelle est l'activité? C'est écrit ici. Nous devons révéler au monde le genre de caractère qui résultera d'une obéissance à chacune des particularités de la loi de Dieu. Donc, est-ce important de souligner et de mettre les points sur les particularités de la loi de Dieu? Je lis ici que la seule manière dont nous pouvons révéler au monde l'amour de Dieu, c'est d'obtenir un caractère qui est le résultat d'une obéissance à chacune des particularités de la loi du gouvernement de Dieu. Et ensuite, ça continue parce que ce n'est pas simplement ça, il nous dit dans une parfaite obéissance à sa sainte volonté, nous sommes appelés à manifester de l'adoration, de l'amour, de la joie et des louanges et ainsi à honorer et à glorifier Dieu. Il est écrit, c'est seulement de cette manière-là que l'homme peut révéler au monde le caractère de Dieu en Christ et démontrer aux hommes que le bonheur, la paix, l'assurance et la grâce découlent tous d'une obéissance à la loi de Dieu. Donc, comme on vient de le lire, la vraie évangélisation, c'est une affaire de cœur qui commence dans notre cœur et qui doit ensuite s'étendre au cœur des autres. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que j'ai appris à travers la considération des personnes d'expérience et des expressions de l'inspiration à être très sur mes gardes face à une activité qui prône la distribution de tracts, de flyers ou de livres. Parce que si ce tract, ce prospectus n'est pas accompagné de ce que je viens de lire, du caractère de Dieu qui est le résultat d'une obéissance à chacune des particularités de la loi de Dieu, si ce prospectus, ce livre n'est pas accompagné par cette puissance, vais-je pouvoir révéler au monde l'amour de Dieu ? Il est écrit ici que ça ne va pas fonctionner. Et maintenant que nous avons sondé les exigences de la parole de Dieu, où il nous dit que nous devons être gouvernés par sa volonté et le reconnaître comme notre maître suprême, eh bien, je veux vous partager quelque chose. Parce que, vous savez, j'ai vu à travers mon expérience personnelle, et je sais pertinemment à travers les diverses et variées déclarations de l'inspiration que la seule manière pour nous de pouvoir faire et accomplir et obéir et pratiquer ces choses qui nous sont ici dites dans l'inspiration, elle passe par la déclaration que nous trouvons dans le livre qui s'appelle Dharmai Nohim à la page 280 au paragraphe 4. Et dans cette déclaration, Dieu nous communique quelque chose que l'on a besoin vraiment de saisir de tout notre cœur et de toute notre énergie pour que l'on puisse arriver et parvenir à faire ce que Dieu nous demande dans cette déclaration que nous venons de lire. Et donc je lis maintenant ce qui est le prix à payer pour être gouverné par sa volonté. Parce que ici on parle d'être gouverné par sa volonté de manière absolument vérifiable par la parole de Dieu. Donc ce que je veux vous dire, c'est que on ne parle pas ici d'être gouverné par sa volonté dans notre imagination. Il s'agit d'une activité de totale harmonie avec Dieu. Je vais laisser l'esprit de prophétie exprimer vraiment de quoi il s'agit. Je lis. Il y a des labeurs, des luttes et des renoncements qui attendent chacun de nous. Nul n'y échappera. Nous devons fouler le sentier où Jésus nous conduit. Il se peut que ce soit dans les larmes, dans le deuil, dans le regret de nos péchés, ou bien dans un effort pour obtenir la victoire sur des désirs dépravés, des caractères déséquilibrés et des tempéraments mauvais. Cela demande de sérieux efforts de notre part, de nous offrir en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. L'être tout entier est requis. Il ne doit pas rester une seule chambre de l'esprit où Satan est libre d'exercer son emprise et de mener à bien ses desseins. Le moi doit être crucifié. Nous devrons manifester une consécration, une soumission et faire des sacrifices qui sembleront nous tirer le sang même de notre cœur. Je peux vous dire, frères et sœurs, que je sais exactement de quoi il s'agit et de quoi ces paroles parlent. Donc, cette déclaration, vous verrez très facilement qu'elle anéantit totalement une idée de christianisme des sens, de christianisme de fable, d'un christianisme tout rose. Ici, on nous dit qu'il y a des labeurs, des luttes et des renoncements qui attendent chacun de nous. Il y en a pour nous tous. Il n'y en a pas un seul qui y échappera. Nous devons fouler le sentier où Jésus a emboîté le pas. Le sentier où lui, il a donné un exemple. Et on va y revenir maintenant. J'aimerais que on relise notre lecture biblique et que on laisse ces choses donner de la couleur à ce que nous venons de considérer dans l'esprit de prophétie. Je lis dans Matthieu, chapitre 16, à la page 24 et 25. Matthieu 16, 24 et 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. » Donc, maintenant que nous voulons, nous désirons choisir le sentier où Jésus nous conduit, Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et me suive. Donc, on veut suivre Jésus et la façon de le suivre est d'obéir à ses commandements, de faire ce qu'il nous demande dans ces choses qui sont des appels extrêmes à la gloire de Dieu, à la sainteté de Dieu. Le prix à payer, c'est que nous devons nous charger de notre croix. Et c'est l'appel ici. Parce que celui qui voudra sauver sa vie, qui dira « Oh non, je veux pas ça. Non, je vais sauver ma vie, moi, je veux pas la perdre. Ça va pas ou quoi ?» Qu'est-ce qui va lui arriver ? En voulant sauver sa vie, en voulant s'épargner des souffrances, des labeurs, des luttes, des renoncements, qui, comme on lit ici, attendent chacun de nous, il va perdre sa vie. Mais de l'autre côté, celui qui perdra sa vie par amour pour Jésus, pour l'amour de lui, celui qui acceptera de passer par cette expérience où il doit manifester une consécration, une soumission et faire des sacrifices qui sembleront comme lui tirer le sang même de son cœur, s'il accepte de passer par cela, il sauvera sa vie. Et perdre sa vie sur le sentier de la croix de Jésus, c'est une activité douloureuse. Et d'où la réponse que Pierre, il a faite à Jésus lorsque Jésus, il prédisait ses souffrances. Si vous lisez au verset 21 à 23. Donc, verset 21, Jésus, il a commencé à déclarer aux disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des sénateurs et des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il y fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et qu'est-ce qu'a dit Pierre ? Qu'est-ce qu'a dit Pierre ? Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à lui dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera point. » Qu'est-ce que Pierre révélait ici ? Pierre révélait ici que la chair n'aime pas la croix. Et je voudrais nous appeler, frères et sœurs, à considérer cela. Sommes-nous prêts à distinguer, à accepter la réalité que les impulsions et les passions de notre chair nous font rejeter la croix de Jésus. Et pourtant, nous avons lu que nous avons envers Dieu une dette de reconnaissance pour la révélation de son amour en Jésus-Christ. Mais, si vous examinez bien, nous pouvons souvent nous sentir en phase avec les tentations de Satan et très peu en accord avec la volonté de Dieu. Et la raison pour cela, c'est parce que, comme Pierre, la chair crie à la délivrance. La chair veut du répit, ne veut absolument pas passer par cette expérience de quoi ? De labeur, de lutte et de renoncement. Et quoi d'autre ? De consécration, de soumission et de sacrifice qui semble nous tirer le sang même de notre cœur. Et j'aimerais que ces choses, vraiment, que Dieu puisse presser ces choses dans notre cœur, dans nos cœurs, et nous faire ressentir que, pour que nous ne nous dérobions plus à ce sentiment terrible d'amertume lorsque nous voyons et nous devons faire des sacrifices, manifester une consécration et une soumission à Dieu qui nous semble tirer le sang de notre cœur comme une asphyxie. Et nous lisons dans la Bible que le sang, c'est la vie de l'âme. Et nous avons l'impression que nous perdons l'énergie vitale de nous-mêmes lorsque nous voulons faire ces renoncements, faire ces sacrifices, manifester cette consécration, cette soumission à laquelle Dieu nous appelle. Et pourtant, nous sommes en train de fouler le sentier où Jésus a emboîté le pas, où Jésus nous conduit. Et il se peut que dans cette activité, ça se fasse dans les larmes, dans le deuil. Le deuil, c'est-à-dire la perte des choses qui nous étaient chères et que nous pensions que nous allions pouvoir les conserver, mais que nous devons maintenant les abandonner, y renoncer. Cela crée un deuil à l'intérieur de nous. Et pourtant, nous sommes sur le sentier où Jésus a marché. Et il se peut que cela se fasse dans le regret de nos péchés, cela crée un terrible trouble dans l'âme. Ou dans un effort pour obtenir la victoire sur des désirs dépravés, un caractère déséquilibré et des tempéraments mauvais. Et ensuite, nous lisons que ça demande de sérieux efforts de notre part, de nous offrir véritablement en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. L'être tout entier est requis pour cette activité-là. Et donc, frères et sœurs, c'est impératif pour nous de comprendre et d'accepter que nous ne sommes pas naturellement disposés à faire la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle obéir vraiment à Dieu en ces derniers jours, ce sera très souvent comme se voir tirer le sang de nos veines. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui choisissent de tourner le dos à Jésus, mais qui restent dans l'Église. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Lorsque moi-même, je fréquentais des frères et sœurs au sein de l'Église adventiste du septième jour, j'ai dû faire cette expérience amère parce que je m'attendais à ce que l'ivraie soit sorti de l'Église et qu'il ne reste que le bon blé au dedans. Et j'ai réalisé, à ma terrible surprise, que l'activité de Dieu, c'est l'inverse. Il arrive un moment où Dieu ne peut plus souffrir que ses enfants soient influencés d'une manière si détrimentale à leur bien spirituel, et il leur fait comprendre et leur demande de sortir. De sortir. Parce que ils sont mis face à face avec une activité où les personnes qui sont censées être en train d'adorer Dieu manifestent de toute apparence que leur cœur n'est pas sur les choses célestes. Et qu'ils se sont déjà dérobés il y a bien longtemps de cet appel à la croix de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, l'appel continue de retentir et Dieu nous demande « Est-ce que tu es prêt à être gouverné par ma volonté, à me reconnaître en toute chose comme ton maître suprême ?» C'est ça la question, frères et sœurs. C'est ça la question que Dieu veut presser sur notre conscience pour nous faire réaliser notre besoin de faire une véritable expérience vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Le prix à payer, Jésus a dit, si tu veux me suivre, c'est que tu portes ta croix et que tu renonces à toi-même. Mais malheureusement, maintenant, les gens ils ne veulent plus mettre la croix sur le dos, ils veulent mettre la croix autour du cou. Ce n'est pas ça. Porter la croix. La vraie croix, c'est quand le seul moyen, la seule entremise par laquelle vous espérez et vous languissez après une révélation aux âmes autour de vous de l'amour de Dieu, c'est le caractère de Dieu imprimé en votre âme et conscience. Et lorsque toute l'énergie de votre âme est poussée en cri à Dieu pour qu'il puisse subvenir aux besoins de son évangélisation vivante, votre cœur demandera à Dieu d'imprimer son caractère sur vous pour que nous puissions révéler Jésus au monde. C'est de cette seule manière, comme l'esprit de prophétie nous le dit, que nous pourrons révéler l'amour de Dieu au monde et proclamer au monde le dernier message. Et j'aimerais aussi vous suggérer, comme je l'avais fait précédemment, que nous vivons à une époque aujourd'hui où les gens défaillent de frayeur. Et ils défaillent tellement, et il y a eu tellement d'abus religieux qu'ils sont fatigués des témoins de Jéhovah et des Mormons et des personnes qui ne représentent pas Jésus. Et donc Dieu nous dit, comme c'est écrit dans Amos, que en ce temps-là, le juste se taira. Et donc tout cela, ça fait partie de la croix. Et donc Dieu nous dit, celui qui perdra sa vie pour l'amour de moi, la sauvera, la trouvera. Et donc, dans toutes ces choses, dans cet appel, nous voulons, nous demandons et nous savons, mais je demande quand même, avons-nous un exemple? Avons-nous un soutien? Mais plus que ça, y a-t-il de la vie dans la mort de la croix? C'est une question absolument fondamentale, frères et sœurs, parce que la raison pour laquelle, tout particulièrement ces derniers jours, les hommes se dérobent à la véritable croix de Jésus, c'est parce que la mort, au moi qu'elle contient, est si terriblement épouvantable aux sens, aux perceptions, qu'on ne voit pas de vie dans ce renoncement de la croix. Mais il y a une vie. Et nous voulons la lire. Et lire comment elle se révèle à nous et se développe devant nos yeux dans Matthieu chapitre 26. Et frères et sœurs, ces choses que je vous partage, ce n'est pas juste le fruit d'une courte réflexion, c'est l'accumulation d'expériences, comme c'est écrit, de labeur, de lutte et de renoncement, de consécration, de soumission et de sacrifice fait pour la cause de Christ, par lesquelles j'ai appris à distinguer de quoi consiste cette croix. Nous le lisons ici dans Matthieu chapitre 26, versets 37 à 44. Donc Jésus s'est rendu avec ses disciples au jardin de Gethsémané. Verset 37, « Et ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être triste et angoissé. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et étant allé un peu plus avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Et il s'en alla encore pour la seconde fois et pria disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et en revenant à eux, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la troisième fois, disant les mêmes paroles. La nature humaine de Jésus criait et soupirait après du répit. Mais il n'y avait aucun répit pour Jésus-Christ. Il était venu racheter nos âmes et il n'a pas reculé devant rien pour accomplir son dessein. Et donc, quand on se retrouve confronté à une croix dans laquelle il ne semble pas y avoir de vie, mais qui semble nous ôter toute notre vie, nous ôter tout notre goût à la vie, nous ôter tout but à la vie, et que ça semble nous tirer le sang de nos veines, nous avons la vision de Jésus. Et c'est important, frères et sœurs, que on prenne ces choses. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il venait à Dieu, au Père, il disait, mon Père, si c'est possible que cette coupe, elle passe loin de moi. Et après, il se ressaisissait et il déterminait de faire la volonté de Dieu. Et dans cette vision, frères et sœurs, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour nous. J'aimerais qu'on lise dans le livre « Vers Jésus-Christ » à la page 438, au paragraphe 2. Et je vais laisser l'esprit de prophétie, encore une fois, élargir ces moments de Jésus qui font écho à nos moments. Je vais vous prier de écouter attentivement pour que l'on puisse recevoir la vie qui est contenue dans cette croix de Jésus pour nous. Je lis. Il s'éloigna à une courte distance des disciples, pas assez loin pour qu'ils ne puissent le voir et l'entendre, et tomba le visage contre la terre humide. Il était surmonté par une terrible crainte que Dieu eût retiré sa présence de lui. Il se sentait séparé de son Père par un abîme de péché si large, si sombre et si profond que son esprit frémissait à ce spectacle. Il embrassait convulsivement le sol froid et insensible, comme pour ne pas se laisser entraîner encore plus loin de Dieu. La fraîche rosée de la nuit tombait sur le Rédempteur prosterné sans qu'il y prît garde. De ses lèvres pâles et contractées s'échappait ce cri amer : « Mon Père ! Que cette coupe passe loin de moi, s'il est possible. Toutefois, qu'il en soit, non comme je le voudrais, mais comme tu le veux. » Ce n'était point la crainte des souffrances physiques qu'il devait bientôt endurer qui mettait à l'agonie le Fils de Dieu. Il endurait la peine de la transgression de l'homme et frémissait à la pensée de la colère de Dieu. Il ne devait point faire usage de sa puissance divine pour échapper à cette agonie, mais comme homme, il devait supporter les conséquences du péché de l'homme et le déplaisir du Créateur envers ses sujets désobéissants. Comme il sentait son union avec le Père se rompre, il craignait que dans son humaine nature, il ne fût incapable d'endurer le conflit qu'il allait avoir à livrer contre le prince de la puissance des ténèbres. Et dans ce cas, la race humaine serait irrévocablement perdue. Satan serait victorieux et la terre deviendrait son royaume. Les péchés du monde pesaient lourdement sur le Sauveur et l'inclinaient vers la terre. La colère du Père, en conséquence de ses péchés, semblait lui arracher la vie. Considérons, frères et sœurs, ce que Jésus a fait pour nous. Et dans cette déclaration de l'inspiration, on peut voir que la croix de Jésus, ce n'était pas simplement lorsqu'il était cloué sur le bois, mais que lorsqu'il est entré dans le jardin des oliviers, il a commencé à ressentir le fardeau de nos péchés. Et qu'est-ce que nous avons lu? La colère du Père en conséquence de ces péchés-là semblait lui arracher la vie. Elle semblait lui tirer le sang même de son cœur, la croix de Jésus. C'est la croix du croyant. Et dans cette croix, qu'est-ce que nous voyons? Pour nous, c'est le fait de renoncer à des choses mauvaises, à des péchés chéris qui représentent une croix et un sacrifice douloureux. Pour nous, c'est ça. Pour nous, la croix, c'est qu'il faut renoncer à toutes ces choses qui nous séparent de Dieu, mais parce que nous avions tant l'habitude de ces choses, nous en séparer, y renoncer, les abandonner, cela semble comme si on nous arrachait la vie, comme si on nous tirait le sang même de nos veines, de notre cœur. Pour nous, c'est ça la croix. Pour nous, c'est cela le sacrifice douloureux. Qu'est-ce que c'était pour lui? Pour lui, c'était le fait qu'il portait tous nos péchés et qu'il endurait la colère de Dieu à cause de ses péchés et contre l'homme pécheur et condamné. C'était ces choses-là qui faisaient sa croix. Et le contraste, si vous essayez de saisir ces choses, d'ouvrir votre cœur à ces choses, frères et sœurs, le contraste entre la raison de notre croix et les raisons, les causes de sa croix, le contraste est si vif que notre pauvre intelligence en est complètement confondue. Notre intelligence en est confondue parce que l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu en Christ, nous presse et nous donne de la vie dans la mort de la croix. Et donc, je veux vous dire que seule cette vision peut rendre possible la croix au croyant et lui permettre d'endurer son port. Quelle est cette vision? C'est ce qui est écrit dans Romains 5, 6. Lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Nous le voyons là, dans le jardin. Il mourait, son âme était agonisait parce qu'il portait nos péchés. Et à la croix, les spectateurs et les soldats s'émerveillaient et Pilate s'émerveillait de ce qu'il était mort si rapidement, mais il est mort parce que le stress dû au sentiment de la séparation d'avec le Père lui a brisé le cœur et lui a causé une crise cardiaque. Est-ce que cela vous arrive de que le stress compresse votre cœur? Ça n'est rien par rapport à ce que Jésus a enduré pour nos péchés et à cause de nos péchés. Et donc pour conclure, j'aimerais qu'on se tourne vers le passage d'Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4, pour y recevoir l'appel final de conclusion en rapport avec toutes ces choses qu'on a contemplées aujourd'hui. Hébreux 12, versets 1 à 4. Et donc, ainsi donc, après avoir vu tout ça, après avoir entendu tout ça, observé Jésus comme ça, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Donc à la lumière de cet amour, de ce sacrifice que Jésus fait, où lui-même, il porte tout le potentiel de la croix que nous sommes appelés à souffrir. Ayant vu cet amour, considéré cet amour, on peut courir dans l'arène qui nous est ouverte, dans cette arène de l'obéissance parfaite à Dieu à laquelle nous sommes appelés. Comment, dans quelle espérance, avec quelle perspective, verset 2, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous voyez, ça rejoint exactement ce que nous avons vu. Les sacrifices que nous sommes appelés à faire nous sembleront souvent comme nous tirer le sang même de notre cœur. Mais nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang comme Jésus jusqu'au grumeau de sang en combattant, en luttant, en résistant contre le péché. Et donc dans cette activité où nous sommes souvent tentés à succomber, à nous laisser défaillir, on nous dit, Dieu nous dit, considérez Jésus qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction. Et quelle est la contradiction? C'est ce contraste qui ne fait pas de sens à notre intelligence de l'amour de Dieu face et comparé au sacrifice qu'il nous appelle à faire dorénavant. La contradiction, c'est que il est là à souffrir la croix à cause des péchés qui sont les nôtres, de nos péchés qui sont posés sur lui et entrelacés sur son cou et entremêlé à sa nature. Il est là en train de souffrir ces choses, la croix, à cause qu'il porte, sans les avoir méritées, nos péchés et notre culpabilité. Et c'est là sa croix. Et il nous offre la paix dont il porte le châtiment. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. C'est ça la contradiction. Et donc en regardant, le considérant, qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, on ne succombera pas en laissant défaillir nos âmes. Et donc le danger pour nous en ces derniers jours, en ces derniers temps, c'est de succomber à la tentation en laissant défaillir nos âmes en vue de l'énormité de la croix de renoncement que nous sommes appelés à porter. C'est le danger aujourd'hui. C'est de se dérober à cette expérience et de succomber à la tentation parce que la perspective, la vue de cette expérience de la croix nous effraie. Mais il est écrit dans Jacques, chapitre 1, heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Est-ce que j'aime Jésus? Si je l'aime, je regarderai à lui. En rejetant les fardeaux et les péchés qui m'enveloppent si aisément et à la place, en rentrant dans l'arène de la croix de Jésus, en regardant à Jésus qui a porté toute la totalité de la croix et qui me donne la vie dans la croix. Donc, puissions-nous prendre courage, frères et sœurs, et nous souvenir qu'il ne doit pas rester une seule chambre de l'esprit où Satan sera libre d'exercer son emprise et de mener à bien ses desseins. Le moi doit être crucifié. Et dans cette crucifixion, Jésus nous dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et lorsque nous prenons cette croix, que nous endurons, que nous faisons l'expérience de ces labeurs, ces luttes et ces renoncements, nous trouverons la vie que Jésus seul peut nous donner. Nous trouverons le bonheur, la paix, l'assurance et la grâce qui découlent d'une obéissance à la loi de Dieu. Puisse le Saint-Esprit donner du sens à ces paroles pour chacun de nous et les rappeler à nos cœurs lorsque nous en aurons le plus besoin. Dès à présent, c'est ma prière. Amen.